Salut les princesses, le New Breakfast Club est à votre service pour une heure d'antidote à la morosité quotidienne, une heure en compagnie des deux ludions du paysage radiophonique rochelais, j'ai nommé Maria Kerr et Sonic Eric.
Tu as pris beaucoup de café aujourd'hui.
Non mais j'ai réécouté l'émission de la semaine dernière. Ah oui, et oui, j'avais l'impression qu'on était tous les deux sous Tranxène, alors on y va.
Tranxène pastis comme dirait Houellebecq.
Alors nos deux compères aujourd'hui vont revisiter la discothèque de leurs parents, mais avant une petite nouveauté. La nouveauté, on en parle pas mal dans Libération, les Inrecuptibles. Bon d'accord, c'est encore le triangle des Bermudes, du parisianisme. Mais bon, j'aimerais. Tu me laisses le plaisir de citer Bayon,
l'ineffable
Bayon, abonné aux pages culturelles de Libération. Voilà ce qu'il dit dans son style si particulier de chevrotine de Holden. C'est un album remarquablement agréable, aux faux airs yéyé, en réalité recherché, tenable, profus et inédit. Il ne dit pas que ça. Il parle aussi d'un diadème de torpeur à contre-jour, en vague rappel d'arrangements tamisés Abbey Road. Eh bien, faites-vous vous-même votre idée. Dominique et Armel Pioline qui
Dominique
forment...
Mock.
Dominique dit Mock, oui, ouais, Mock. Effectivement. Et Armel Pioline qui forme le duo de Holden.
Le double.
La jeune femme qui vogue dans nos âges et le groupe qui n'en est pas à son premier essai puisque ça doit être le troisième disque.
Après l'arrière-monde et Pedro Lira.
Je trouve ça plutôt bien dans une couleur pas si lointaine de autour de Lucie, ouais. de Françoise Breu et
c'était tout ça est très Village Vert et Lithium qui étaient deux labels parisiens qui avaient ce son là il y a quelques années. Maintenant, je sais pas si ces maisons existent encore mais elles ont fait des petits un peu partout.
J'aime bien le son, j'aime bien les arrangements, j'aime bien la voix. Peut-être un peu trop de sérieux dans les paroles, confirmées d'ailleurs par les autres titres de cet album qui s'appelle Chevrotine.
Et on va rester, si tu le veux bien, dans les nouveautés avec la reprise de la semaine, parce qu'il y a de quoi faire au niveau des reprises, puisqu'il y a ce fameux album, ce tribute à Gainsbourg, anglophone à Gainsbourg. Et dans un sampleur des Un Rock, pour ne pas les nommer, il y a trois semaines, un mois de ça, j'ai entendu un extrait de ce disque, une reprise de The Rex qui reprend Le Poinçonneur des Lilas sous le titre Just a Man with a Job. Et je me suis dit, ça va être méchamment bon, cette galette-là. Depuis j'ai écouté l'album entier, alors comme tous les tributes, bon, il est très 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 classieux, c'est le cas de le dire.
Les tributes inégaux, c'est un pléonasme.
Ouais. Mais là, c'est vrai qu'il y a de très 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 belles signatures, hein, Tricky, Portishead, Marianne Faithfull, Placebo, et j'en oublie plein. Et évidemment, Franz Ferdinand. Et évidemment, c'est inégal. Le disque perd un petit peu de sève dans sa première moitié, pour reprendre un petit peu plus de niaque sur la fin. Mais du coup, on peut dire que The Rex a sans doute signé la meilleure reprise de Monsieur Gainsbourg Revisited.
Oh oh. Keeping a check on four wheel racks. Three floors above, it's not the same. Piccadilly line. Here I'm a ghost in a sailor. Kind of fellow. Who's counting things that could be nice. Counting on the man, he's counting lights. Counting lights every night. Every kind of light. Little lights, bigger lights. Any kind of light. And life's from a living. Waking up the wine. Counting lights every night. Every kind of light. Bigger lights, any kind of light. And every night I'm counting lights from left to right. I count the lights. I'm just a man with a map. My empty set is open in my lap. Lady, I know where you're going. Your cars are showing. Your headlights polished to a T. I'll count your lights, you count on me. Someday I'll leave, I'll believe. If I can find a trunk card in my sleeve. In the boats of Monte Carlo, a silver arrow. Upon a cabby cut my A to Z, it's flat on its back. Down lights every night, every kind of light. Little lights, bigger lights, any kind of light. Lead me to the Navy. Look, here comes a Chevy. Counting lights every night, every kind of light. Little lights, bigger lights, any kind of light. Every night I'm counting lights from left to right. I count the lights.
Dans sa période de jazzy au Père Gainsbourg, on distingue d'un seul coup vraiment toute la pop attitude et toute la charge pop qu'il y avait déjà dans le morceau, en fait, hein. Parce que arrangé comme ça, je trouve qu'il est c'est un vrai morceau de
Ouais, mais
de
je trouve que le morceau se prête bien à un traitement limite punk rock, quoi.
Ouais.
Peut-être dans le texte aussi.
Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cure.
Et de presse cette semaine, je vais plutôt vous parler de presse internet sous la forme des blogs. Je vais pas vous parler d'un journal, je vais vous parler d'un site internet d'un jeune homme français, je crois, dont j'ignore évidemment le nom, qui s'appelle ultragraphic.com et qui se prête à un petit jeu qui est plutôt réussi. Il a une rubrique qu'il décline sur de fort nombreuses pages qu'il appelle Sampler Samplé et il référence les tubes pop, électro et de hip-hop évidemment qui se servent de samples et il passe il permet d'écouter l'extrait originel de l'artiste qui a été samplé et ce que c'est devenu ensuite dans des morceaux plus récents ou des morceaux réarrangé et c'est une mine, hein. C'est une mine d'informations, c'est une mine de plaisir, c'est vraiment très 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 réussi. Je vous propose par exemple d'entendre un petit peu à quoi ça peut ressembler. Je vous ai choisi deux morceaux, je vous ai choisi Crazy in Love de Beyoncé et Toxic de Britney Spears et on voit leurs origines à chacun. On va commencer donc avec Beyoncé et son Crazy in Love qui en fait est basé sur un sample des Chillites. Alors les Chillites c'était un groupe de psyché soul dans les années 70.
Ouais, tout début des années 70.
Ouais. Et donc sur l'album I Like You Loving, il y avait ce morceau qui s'appelait Are You My Woman Tell Me So. Et on écoute d'abord Beyoncé et ensuite les Chillies pour voir le traitement.
C'est fou comme le Philly Sound a été une mine d'or pour tous les artistes hip-hop et R&B de la fin des années 90 et puis début de ce siècle.
Ouais, non, c'est rien de le dire parce que de façon de manière générale, la soul, le disco et le jazz ont vraiment été des coffres forts qui ont été dépouillés par les genres actuels. Ouais.
En même temps, le site dont tu nous parles, c'est absolument passionnant. L'envie de pouvoir connaître toutes ces ramifications, elle est là à portée de main. Quoi. Il suffit d'un petit clic et puis des trésors
on a les pochettes à chaque fois des artistes en question et puis ça donne envie de réécouter les originaux bien évidemment. Alors donc je vous disais la soul et le jazz, mais pas seulement parce que dans le cas de Toxic de Britney Spears, figure-toi que c'est un sample d'une bande originale de film de Bollywood. Alors je vais essayer de te prononcer le nom. Le compositeur en question s'appelle Lata Mangeshkar et le morceau s'appelle Tere Mere Beach Mine. Tu pardonneras mon accent indie évidemment.
Oui, je suis pas très fort non plus.
Et donc là, oui, c'est une contrée qui jusqu'à présent était un petit peu moins visitée comme mine de sample, mais ça pourrait bien changer quand on voit ce que ça donne avec Britney Spears. But can't you see I'm calling? A guy like you should throw a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need it. We'll be right back.
Non, ce qui est complètement fascinant, c'est que le morceau samplé ne le cède en rien par rapport à Toxic, un très très grand morceau, mais il y a vraiment quelque chose de fascinant. Et là, un monde entier est totalement inconnu, hein, ma part.
Non, donc c'est très très réussi. Donc cette semaine, je ne vous conseille pas d'acheter un journal, mais de vous rendre sur le site www.ultragraphique, en un seul mot, graphik.com. Parce qu'il y a des pages et des pages pour s'amuser et puis pour défricher tout ça.
Je sais pas si tu le remarques, mais de plus en plus on est tenté effectivement de vous aiguillonner sur des sites, hein,
sur des radioblogs et tout ça. Il s'y passe vraiment beaucoup de choses.
Comment se forme une discothèque personnelle? Eh bien, c'est souvent en fouillant dans la discothèque de ses parents qu'on trouve les premiers éléments, les premières pistes, les premières bribes d'une future discothèque intime. Même si, évidemment, il y a qu'une vue imparfaite et
bien sûr, mais bon, c'est un pied à l'étrier pour commencer. C'est l'occasion par la suite, ou bien de passer un relais, ou bien de mettre le feu à tout ça, hein, de faire du passé table rase, et en particulier du passé familial table rase, même musicalement parlant. Mais ça peut aussi laisser des traces. C'est ce qu'on va voir sur les deux sujets d'expérience que nous avons aujourd'hui, à savoir Sonic Eric et Maria Keller.
Voilà, exactement. On va s'utiliser nous-mêmes comme nos propres cobayes, ce qui devrait pas être trop
douloureux,
difficile, ce qui devrait pas être trop
encore
douloureux.
Que pour la douleur, ça puisse.
Oui, surtout qu'effectivement, réaction, assimilation, ce sont les deux relations qu'on peut avoir l'un et l'autre, je pense, avec la discothèque.
Oui,
le
troisième serait l'indifférence. Ça doit exister chez certaines personnes. En l'occurrence, nous pas du tout. Que ça soit bon ou pas, je me vois au moins de manière hebdomadaire aller mettre le nez dans la discothèque de mes parents dès tout jeune.
Oui, même s'il y avait des choses qui me tentaient tout de même plus ou moins.
Bien sûr. Le
chant des femmes algériennes Djourdjoura, je pense pas l'avoir souvent écouté ni compilé dans les anthologies que je faisais à destination de mes amis.
Cette pochette t'a sans doute marqué.
Pas faux, effectivement. Alors la première pierre angulaire de la discothèque paternelle, d'ailleurs, hein, plus que familiale, c'était
Faut-il situer un petit peu générationnellement? Ça serait peut-être pas idiot.
Non, ça serait pas idiot, effectivement. Donc j'ai des parents qui sont nés à la fin des années 30 et au début des années 40, entre 38 et 40, donc dans une fourchette chronologique.
Ils ont eu 20 ans quand?
Assez proche.
Sans vouloir être.
Ah bah c'est facile.
Mesquin.
Ils ont eu 20 ans au moment où le rock'n'roll faisait ses premières apparitions
sur la scène
européenne.
Voilà, ça c'est déjà très intéressant.
Mais il n'y avait pas moins rock'n'roll et moins sensible à, disons, aux personnalités flamboyantes d'Elvis, de Johnny et d'Eddie que mon père. Il a toujours botté à contre-courant, et c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéressait, c'était la musique liturgique, la musique religieuse et plus particulièrement Bach. Je pense que ses premiers investissements, mon père était kinésithérapeute, ses premiers, on dit pas caché, mais ses premières commissions ses premiers salaires, il les a investis dans le club français du disque.
Tu veux dire que le trou de la sécu a commencé dans le club français du disque.
Voilà, dans le club français du disque, effectivement, et plus particulièrement Bach. Moi, j'ai le souvenir des coffrets, l'intégrale des cantates de Bach de Carl Richter, qui doit être le premier coffret qui s'est acheté. Donc il est encore présent dans la discothèque familiale quasiment 30 ans après, et mon père y accordait un soin quasi maniaque, chose qui s'est transmise à la génération d'après.
Tu veux dire toi?
Oui,
donc,
exactement.
Tu n'as pas tenté tes premiers scratchs sur
pas sur Bach. Alors c'était l'intégrale de Bach leur est intéressée, mais plus particulièrement la musique vocale, la musique chorale, et en particulier les cantates. J'ai dû être familiarisé avec cette musique dans une période où je peux même pas m'en souvenir. Mes toutes premières années ont dû être baignées par Bach, puisque je n'ai pas de pas de souvenir de dimanche matin sans cantate de Bach. C'était c'était un rituel avant ou après l'office religieux, parce que j'étais dans une famille pratiquante. En préparant le repas, on avait des cantates. Alors je vous passe les WVV, ça vous dirait pas grand chose forcément, mais c'est pas une cantate que je vais vous faire écouter.
C'est le générique de Téléfoot.
non, pas du tout. C'est la musique dont mon père, je pense, sent encore aujourd'hui le plus proche, ce qu'il garderait sur la proverbiale île déserte
avec les habitants de Lost.
Oui, c'est la messe en si. C'est sans doute un des plus grands monuments culturels de la musique occidentale. On va écouter alors un morceau qui lui est peut-être pas à lui, qui est peut-être pas ce qu'il préfère dans la messe en si, mais moi ce que je préfère hein, dans la deuxième partie après le credo, après le gloria, le benedictus.
Thank you.
Nous écoutions Clad et Soon.
Nous écoutions religieusement.
Dans la messe en si, le Benedictus plus précisément. Et tout ça a été fort bien dirigé par Eric Erickson. Il y a là un mélange de sensualité, de chasteté qui est unique à Bach. Bach qui a fait beaucoup pour Dieu. Comme disait Sioran.
Ouais, c'est très bien dit, ouais. Bah, Bach, il y en avait un petit peu chez moi, parce que ma mère avait quelques disques classiques, mais qu'elle écoutait déjà plus trop quand, à partir du moment où je suis né. Mais il y avait un disque de Bach un petit peu biaisé, c'est le cas de le dire, à la maison, qui était truc qui me fascinait littéralement, déjà à cause de la pochette. Et j'ignorais à l'époque l'histoire de l'artiste en question, sinon j'aurais été encore plus dingue de ça. Je sais pas si tu te rappelles de Walter Carlos.
Ben oui,
qui est devenu très vite Wendy Carlos, donc c'est un des premiers opérés dans le genre, d'ailleurs a travaillé beaucoup avec Stanley Kubrick, la musique de Orange Mécanique, c'est lui qui l'avait fait.
Voilà.
Son principe, c'était avec les premiers synthétiseurs qui prenaient une pièce entière, ouais, qui avaient des sons très très particuliers, c'était de reprendre justement du classique. Et il avait fait un album qui s'appelait Switched on Back, ouais, et qui avait chez mes parents, parce que donc ce côté un petit peu twisted, un peu tordu, devait plaire. Et moi, évidemment, enfant, ça me fascinait. C'était soi-disant les sons de la modernité, ce qui est à la réécoute et bien sûr plus du tout vrai. Il était donc, d'ailleurs sans doute pas à l'époque, parce que c'est quasiment contemporain. Enfin, pas tout à fait, non, j'exagère, mais on n'est pas très loin du moment où Jean-Michel Jarre sortira Oxygène, par exemple. Et ça n'a rien à voir. Il y a quand même déjà un fossé dans le son incroyable, mais ça donnait des versions très 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 particulières.
Mais tu sais, il y avait ça au début des années 70 aussi, avec le groupe Exception.
Voilà,
bah, classique hip hop.
Il y en avait aussi. Et qui avait fait un gros tube avec la cinquième de Beethoven, qui ouvrait l'album Exception One.
Ah ouais.
Ils en ont fait plein. Et donc,
il y avait
aussi ça chez moi. C'est-à-dire que visiblement, ils aimaient bien les gens.
Crossover.
Bon, c'était l'époque, hein. Tout ça, c'est 68-69. Voilà.
Et c'est le moment où tes parents ont 20 ans. Parce que tu nous as pas parlé de leur classe
d'âge. Ma mère a davantage. Mon père, à peu près. Oui, ouais. C'est ça. Mon père a le bon âge. Mais donc oui, ils étaient assez fervents de ces genres un petit peu tordus. Et pour rester dans un certain lyrisme entre guillemets, j'ai choisi comme premier extrait moi quasiment le seul album de pop ou de rock qu'il y avait à la maison, parce que finalement il y avait ou des transgenres ou beaucoup de variétés de yéyé et de choses comme ça, et de la pop et du rock, alors que générationnellement ils auraient pu être concernés, il y en avait très peu. Il y avait dans mon souvenir deux disques vraiment dans ce créneau là c'était News of the World de Queen. Bon, en 77, c'était quand même le carton, hein.
Oui, un disque qu'on trouvait assez fréquemment, hein.
C'était quand même le gros carton. Donc, oui,
il
n'y
a pas besoin de fouiller beaucoup pour le trouver.
Ouais. C'était celui-ci. Et l'autre, c'était Tommy. Donc, l'opéra rock de Pete Townshend. Yes. Tommy, des Who. Et d'ailleurs,
quelle version?
La première, la philharmonique, moi je me la suis prise avec mes propres deniers plus tard, et la BO du film qui est encore une autre version.
Ah oui, je pense à ça. Soit BO du film,
ouais,
soit.
Non, mais il y a une philharmonique entre les deux. Ouais. Non, là c'est la version studio
avec la pochette bleue,
la normale avec la pochette bleue qui s'ouvre en triptyque, ouais. Un truc un petit peu ambitieux. Et je dois avouer
très
que
sobre.
ça me fascinait littéralement. Je vous ai choisi un morceau qui à l'époque lui devait pas beaucoup me fasciner, il m'a beaucoup plus plu après avoir vu le film. Qui s'appelle le morceau en question s'appelle Cousin Kevin, mais l'ouverture de Tommy quand j'étais gamin, ça me faisait cavaler en rond dans la maison, grimper les étages, dresser les poils sur le dos.
tu m'as fait peur sur les poils.
C'était le seul représentant. Peut-on dire, allons, à l'époque je devais en avoir assez peu, hein.
D'accord,
il me fallait beaucoup de concentration pour les faire se dresser, je crois. Et donc Tommy, d'ailleurs chez moi on disait toujours Tommy the Who, je sais pas pourquoi, comme si c'était le titre complet, Tommy the Who. Je vous propose d'écouter Cousin Kevin.
Take you a week, but tied to that chair, you won't go anywhere. There's a lot I can do with a free.
Cousin Kevin, un beau petit salopard d'ailleurs le Cousin Kevin dans ce morceau, parce que Tommy qui est donc sourd, aveugle et muet, et on le confie à son petit cousin Kevin qui va faire le babysitter et qui s'ennuie avec un infirme pareil. Ouais. Il est pas beaucoup plus vieux que Tommy, et donc il s'amuse à faire que des petits jeux cruels et de la torture pour s'amuser, puisque ce gamin ne peut rien faire, il va le torturer. C'est mignon comme tout.
Oui, surtout que c'était Kiss Moon qui...
C'était Kiss Moon, oui, qui avait sa charge...
Le torsionnaire.
De cruauté.
Alors tout à l'heure, je dois avouer que j'ai pas été tout à fait juste avec mes parents en disant qu'ils étaient absolument anti-pop. C'est pas complètement vrai. Même si ma mère... était pas non plus complètement adepte des rites yéyé et a pas embrassé la mode rock'n'roll avec fougue et avec ferveur. Elle avait quand même dans sa collection, ou du moins quand j'ai commencé à y mettre le nez, ouais. C'est-à-dire 15 ans, 20 ans plus tard, quelques hippies, c'est-à-dire vous savez, ces 45 tours cartonnés 4 titres, dignes d'intérêt. Alors, Marie Laforêt notamment, celui avec Marie Les Vendanges de l'Amour, qui doit être un de ses premiers, et encore plus, pour moi, encore plus digne d'intérêt, Françoise Hardy, et notamment le 45 tours Immaculé, avec Je veux qu'il revienne, Mon ami la rose, Nous étions amis, et La nuit est sur la ville. Ce sont quatre de ses plus belles chansons sur un seul 4 titres avec une superbe pochette. Je ne sais pas qui l'a signé. Ça doit être sans doute Jean-Marie Perrier.
Oui,
à l'époque, c'était son photographe officiel. Ça.
Son photographe Pygmalion.
On peut lui reprocher certaines choses à Jean-Marie Perrier, mais pas d'être un petit photographe. Les pochettes de Françoise Hardy font aussi pour l'intérêt qu'on porte encore actuellement des gens qui l'ont pas connu dans ces grandes années, hein. J'aurais tendance à dire 1966-1973 pour simplifier ces très grandes années, des gens qui sont nés bien après et qui continuent à lui vouer un culte, hein. On voit ça notamment sur les blogs dont tu parlais tout à l'heure, et c'est vrai que ça a joué beaucoup pour moi. Alors je vais juste décliner
moi sur les Yeye Girls. Chez moi elles étaient pas présentes, non, je pense qu'elles n'étaient plutôt pas présentes, mais elles avaient, pour le cas de Françoise Hardy, mais je pense aussi à France Gall, donc il y avait aucun disque de ces demoiselles à la maison, pour le simple argument, je crois me souvenir, qu'elles n'avaient pas de voix. Imagine.
Ah oui.
Il y avait parce que chez moi il y avait ce clivage là, il y avait les choses possibles et celles qui l'étaient pas, donc on était toujours dans un camp ou dans l'autre. Par exemple, il y avait un ou deux 45 tours des Beatles, il y en avait aucun des Stones. Mais il y avait aussi cette histoire de toi t'es une chanteuse, toi t'en es pas une.
Alors qui était une chanteuse chez toi?
Eh ben figure-toi que je me suis creusé la nénette pour essayer d'en trouver une, justement dans mes souvenirs, et je vois pas de disque de fille.
Cora Booker, Michel Ardan.
Non. Il y avait peut-être quelques trucs de genre Patachou. Ah, il y a pas de Barbara. Non, je crois pas. Ouais. Voilà, je veux dire Patachou. J'en suis même pas certain, parce que pour préparer l'émission, j'ai pas voulu revoir les disques en question, ni demander d'informations à mes parents, leur demander mais qu'est-ce que vous écoutiez, je m'en rappelle pas bien. J'ai voulu faire vraiment avec mes souvenirs, et je vois pas de voix féminine dans la discothèque en question.
Alors effectivement, donc tu vois, Françoise Hardy, Marie Laforêt étaient présents dans la discothèque, mais j'ai pas en même temps le
souvenir. Nana Mouskouri.
Ah voilà. Nana Mouskouri. Voilà.
Elle Nana Mouskouri, chanteuse. Françoise Hardy, non.
Ah oui, c'est ça.
Voilà le clivage.
Il y avait aussi Nana Mouskouri chez moi, avec notamment c'est comme ça que je suis venu à Dylan. Nana Mouskouri c'est plus tard. Farewell Angelina. D'accord. Adieu Angelina, et c'est ce qui m'a fait venir à Dylan peut-être plus tard avec beaucoup d'avidité. Non, en même temps, tu vois, Françoise Hardy, on l'écoutait pas très souvent, et par contre, un 45 tours qu'on écoutait vraiment très très fréquemment lorsqu'il y avait des sœurs de ma mère ou lorsqu'il y avait des amis. Je me souviens d'avoir beaucoup écouté, ça me plaisait pas plus que ça, parce que il y avait ce côté rive gauche auquel peut-être j'étais pas très sensible étant jeune. Si après je me suis un petit peu rattrapé étant grand adolescent, et c'était Anne van der Love. Alors Anne van der Love, ça te dit peut-être pas grand-chose.
Si, ça me dit beaucoup, parce que figure-toi qu'avec l'un des groupes que j'ai pu avoir précédemment, les autres, je me suis retrouvé à faire sa première partie à Verneuil-sur-Avre.
Sérieux ?
Oui.
Tu m'en avais jamais parlé.
Bah c'est un souvenir très confus. On avait un manager à l'époque qui passait son temps à nous dire qu'il allait nous dérouler le tapis rouge là, les mecs, c'est bon, je vous ai trouvé un plan en or.
Et alors qu'on faisait, première partie d'un plan
alors qu'on faisait quelque chose qui était pas très loin des satellites ou de la Mano Negra à l'époque, on s'était retrouvé à la MJ de Verneuil pour un plan Anne van der Loop.
Ouais. Mais tu te souviens de la dame?
Bah physiquement oui, puis du coup j'avais écouté un peu de disque avant. Ouais,
mais elle était, je sais pas, j'imagine le moment où tu chantais avec les autres, c'est-à-dire début des années 90, elle était quand même déjà un petit peu
Non mais je l'avais pas vu en fait, on n'a pas fait la première partie d'Anne van der Love.
D'accord. Donc en 1967, son grand succès, Anne van der Love, alors son grand succès, attention, hein, je sais même pas si ça a été dans les charts, mais ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 40 ans, peut-être que...
Donc elle a eu autant de tubes que Lenny Escudero.
Voilà.
Ouais, c'est la même gamme. Non, Lenny en a planté un ou deux, mais c'est la même gamme.
Voilà, c'est la même cible que Lenny Escudero, avec simplement un seul hit, alors que Lenny
Escudero... On a aussi failli faire la première partie de Lenny Escudero, mais avec le groupe Tankerville.
D'accord. Lenny Escudero, il y a eu Balade à Sylvie, Malipan...
Oui, c'est vrai qu'il en a eu.
Il y a eu quand même pas mal. Alors qu'elle, elle a eu vraiment qu'un seul hit, et c'est celui-là.
Qu'on me laisse à mes souvenirs, qu'on me laisse à mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise, j'avais les cheveux dans les yeux. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois bien qu'il m'aimait un peu. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Le vent du nord qui s'amoncelle s'amuse seul dans mes cheveux. Je n'étais pas toujours bien belle, mais je crois qu'il m'aimait un peu. Ma robe a toujours ses reprises et j'ai toujours les cheveux fous. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois que je l'aimais beaucoup. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Si j'ai fondu tant de chandelles depuis le temps qu'on ne s'est vu, et si je lui reste fidèle, à quoi me sert tant de vertu? Qu'on me laisse à mes amours mortes, qu'on me laisse à mes souvenirs. Mais avant de fermer la porte, qu'on me laisse le temps d'en rire, le temps d'essayer d'en sourire. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau,
compromis tout à fait délectable entre Françoise Hardy et Anne Sylvestre.
Ouais, c'était... ouais, j'allais évoquer Anne Sylvestre. C'est celle qui m'a préfermé lacet.
C'était Anne van der Loop sur Radio Collège. Bon, évidemment, c'est difficile esthétiquement de juger ça tout à fait objectivement. C'est tellement lié à mon enfance et plutôt des bons souvenirs que j'écoute ça avec beaucoup de plaisir. Je trouve que...
Tu mangeais une part de gâteau en même temps.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est...
Une chorégraphie avec des cousines.
Oui, j'en ai beaucoup de cousines.
Oui, des fameuses.
Tendre cousine. Et non, c'est bien, je regrette rien de ça, je ne renie pas du tout cette partie de la discothèque de mes parents.
D'accord, bah je vais reprendre un petit peu le fil de celle des miens. On va rester un peu dans les yéyés. Dans mon souvenir, j'ai constaté que bon, s'il y avait beaucoup de Claude François, il y avait surtout de nombreux, enfin pas spécialement yéyés là pour le coup, de nombreux humoristes chantants. Qui était un créneau assez...
Ah mais oui, mais c'est vrai que dans ta famille,
ouais,
on a...
Assez fort.
On a un passif.
Assez fort, donc il y avait pas mal de disques, il y avait quasiment l'intégralité des 45 tours et des albums 33 tours des Charlots, par exemple. Mais ça pouvait aller assez loin, parce qu'il y
Coluche
avait...
Coluche aussi.
Ouais, il y avait... Mais Coluche, bon, il y avait les albums des sketchs que j'ai récupéré quand j'avais, quand j'étais un peu plus vieux. Mais il y avait surtout les 45 tours des rares chansons qu'il a pu faire. Mais pareil pour un type comme Pierre Desproges qui a chanté 2 ou 3 titres.
Oh!
Ouais.
Ah, je sais pas.
Qui sont pas très fameux d'ailleurs. Mais il y avait ces 45 tours à la maison. Il y avait, bon, du Pierre Péchin.
Non, c'est du collector, ça.
Oui, c'est probable, ouais, c'est probable. Ouais. Et il y avait donc toute cette toute
Pierre
cette
Pierre Péchin, tu sais que ça a enchanté les récrés, ça.
Ah bah ouais, ah,
la Cicrane et la Fourmi.
Ouais, ouais,
t'as peut-être pas connu ça, la Cicrane et la Fourmi, ici.
Non mais la Cicrane et la Fourmi, non, tu confonds la Cicrane et la Fourmi, c'était la Fourmi, c'était Pitéric hein, qui faisait ça. Lui c'était la Cigale et la Fourmi tout simplement, il avait conservé le vrai titre.
C'est vrai, effectivement.
Mais par contre, il interprétait ce sketch avec un accent qui lui était propre et un style assez percutant. Moi, c'est un truc qui me faisait hurler de rire quand j'étais môme. Pierre Péchin. Et donc oui, des yéyés, il y avait aussi Antoine, il y avait toute cette gamme là, puisqu'il y avait les Charlots, il y avait Antoine. Et dans les gens un petit peu ironiques comme ça et avec beaucoup de style, il y avait aucun disque de Nino Ferrer. Ouais. Ce qui m'aurait pourtant pas surpris avec le recul qui est du Nino Ferrer. En revanche, Jacques Dutronc était maître des lieux absolu. Jacques Dutronc, vous voyez bien la série de tubes qu'il a pu
avec
faire
Lanzmann,
avec Lanzmann dans la fin des années 60. Comme extrait, je vous ai choisi un titre qu'il y avait en 45 tours, qui me plaisait énormément parce que j'étais natif du 78, du 78, j'étais donc Versaillais. Et il a, à la fin des années 60 ou début des années 70, je peux pas tout à fait dater le morceau, et interprété une chanson qui s'appelait La queue des Yvelines, et qui était une enfilade de jeux de mots avec le nom des communes. Je sais pas si tu vois ce morceau.
Ah, pas du tout, je l'ai jamais entendu.
Le nom des communes des Yvelines en question, le tout sur un riff un petit peu rock, un petit peu qui balance un peu. Je vous laisse écouter ça tout de suite.
Je
mal ça. Hein.
Ouais, c'est ouais, super
c'est...
bien.
Ouais, c'est plutôt chouette. Ouais,
ouais. Ouais, c'est super bien. On se faisait la remarque, il y avait un son quasiment kinksien, mais
ouais.
Il y en a sur d'autres titres de du tout.
Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment cette exigence pop. Ouais. Pour terminer avec pour faire court avec les disques qu'il y avait encore chez moi, je rendrai justice à ma maman en citant Gilbert Bécaud qui avait à profusion presque tous les 45 tours étaient dédicacés d'ailleurs parce qu'elle avait une camarade qui était la secrétaire particulière de Gilbert Bécaud, donc presque tous les
ça aide.
Ouais, presque tous les disques étaient signés. Jean-Claude Pascal aussi, Jean-Claude Pascal que ma mère a côtoyé, par contre elle a travaillé avec lui à Europe 1, donc Jean-Claude Pascal qui a d'abord eu beaucoup de succès en reprenant Gainsbourg parce qu'ils étaient très amis, qui a ensuite fait l'Eurovision en 61
pour le Luxembourg
avec Nous les Amoureux.
Oui.
Donc pareil, les disques étaient presque tous dédicacés. Alors tout ça était assez fascinant, même si c'était des gens qui me parlaient pas beaucoup, Bécaud et Jean-Claude Pascal, mais voilà, j'avais l'impression d'être dans le grand monde avec ces disques-là. J'en oublie certainement plein d'autres, mais je te laisse la parole pour conclure avec les tiens.
Oui, non, parce que effectivement, dans la discothèque de mes parents, il y avait des disques qui étaient le choix évident de mes parents, le 45 tours 4 titres de Françoise Hardy, ma mère se l'était acheté pour elle, les disques de Bach, mon père se l'était acheté en vue de constituer une future intégrale, mais il y avait aussi les disques qu'on leur offrait et qui se trouvaient là en quelque sorte par inadvertance, car je me souviens à 14-15 ans avoir découvert Medal de Pink Floyd. Mmh. Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John qu'on va écouter tout à l'heure. C'est évident que mon père ne mettait jamais ces disques là, donc ils étaient dans un état plutôt nickel, mais c'était des gens qui souhaitaient ouvrir mes parents à d'autres horizons.
Ça suffit.
Voilà, exactement, à une esthétique pop, hein, pour aller
oui,
vite
oui, bien sûr.
Une esthétique pop, mais mon père était tout à fait rétif par rapport à ces tentatives d'intrusion. Il ne voulait pas de ses chevaux trois, mais ce sont ses enfants qui les ont ensuite utilisés. Rappelle-toi, Pink Floyd dans les années 70, à la fin des années 70, dans beaucoup de milieux petits bourgeois, là aussi pour parler vite, c'était une fenêtre, une ouverture vers
subversif. Pink Floyd, c'était vraiment l'affaire de mes cousines, parce que je n'ai pas de cousins, l'affaire de mes cousines plutôt que mes parents ou mes oncles et tantes. Hein. C'était la génération entre les deux, quoi, tout simplement, qui était vraiment sensible.
Oui, mais
dans mon milieu.
Oui, mais moi, c'était des disques que je retrouvais aussi chez les amis plus jeunes de mes parents,
voilà,
chez les
ouais,
baby boomers.
Ouais, ouais.
Chez les boomers, Pink Floyd était une valeur sûre.
Absolument.
C'était
ouais.
un pilier de discothèque. Et Elton John dans un versant plus pop et moins progressif aussi. Et surtout ce double album-là,
ouais,
qui était
ouais.
le désir pour Elton John d'accéder, je pense, à une certaine respectabilité.
Ce qu'il a obtenu,
qui était Goodbye Yellow Brick Road. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. Sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Back to you.
who ain't got a penny, stiff and floated just like you.
Voilà, c'était Goodbye Yellow Brick Road, hein, bien sûr, vous avez reconnu Elton John.
Je crois qu'il l'a dit plusieurs fois.
Oui, aussi. Alors, une autre émission
se profile,
faire,
hein, ouais.
Une autre émission à faire.
L'extension,
c'est...
l'adonne de celle-ci.
Mais en transférant sur la discothèque des amis de nos parents.
Voilà.
Qui ont été aussi une formidable évasion, une formidable incitation.
Est-ce qu'on acceptera le parce que moi je pense à mes oncles et tantes et donc mes cousines, est-ce qu'on peut descendre jusqu'aux cousines cet environnement-là ou il faut garder la strate générationnelle? Parce que moi il y aura tout l'éveil anglophile avec les corgis et tout ça qui est venu de mes cousines en fait. Mes cousines dont je t'ai déjà parlé, souviens-toi, par courrier,
oui,
par...
dans un mail de légende. Mais...
Oui, ça c'est une non,
on ne va pas trop
on va rester
dans la private joke. Voilà, exactement. Avec le maintenant légendaire, lui aussi, Blind Test.
Alors, je suis un petit peu inquiet sur ce blind test parce que tu m'as évoqué avant l'émission ce que tu avais songé à me mettre premièrement dans le blind test. Je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, donc je m'inquiète un petit peu du niveau de cette semaine.
Oui, mais j'ai essayé de mettre la barre un peu plus haut parce que...
J'en ai marre.
Oui, non, mais j'étais un petit peu vexé la dernière fois, t'avais trouvé en moins de deux secondes. Donc là...
Venge-toi, vas-y.
J'ai estimé, il y a encore un petit rapport avec l'actualité. Mais tu vas voir, c'est pas, c'est aussi un petit peu pour t'induire en erreur que je dis tout ça.
D'accord.
Voilà.
Allons-y. Scott Walker.
Oh le crapulos. Oh le petit saliveau. Oh, quand j'ai dit une seconde en moins de deux secondes. Bon, est-ce que tu peux voir le rapport avec l'actualité?
Je suis très content d'avoir trouvé. Alors, tu me l'aurais fait il y a trois semaines, j'aurais jamais trouvé.
Ah.
J'ai récupéré les quatre premiers Scott 1, 2, 3 et 4 la semaine passée et j'ai trouvé ça très très bien. J'aime beaucoup toute cette emphase dans la voix, j'aime beaucoup les arrangements.
Le côté mariachi un peu, hein.
Ouais. Mais posé sur des arrangements très très musique de film et ça me plaît énormément.
Bon, alors
vas-y, dis-moi.
Oh, je demande pas le titre quand même, je vais pas
jusque là. Alors.
We came, pourtant il a dit tout de suite We Came Through sur Scott 4.
Un monsieur qui a repris très très belle manière Brel. Hein. On n'en a jamais passé dans les reprises de la semaine, mais il a un petit album de reprises de Brel.
Scott Walker sings Brel. Ça,
qui vaut
c'est
son pesant. Ouais.
Alors maintenant, comme tu as trouvé facilement, deuxième question, peux-tu me dire pourquoi Scott est dans l'actualité?
Eh bien non.
Ah,
oui, bah écoute, hein.
Oui,
sortant comme tu peux.
Oui, c'est vrai, je fais le fanfaron comme je peux. Alors 4AD, le fameux label
480
vient d'annoncer un successeur à Tilt, 1995 déjà, donc plus de 10 ans après son dernier album solo. Il faut dire que Scott Walker a la fâcheuse habitude de couler toutes les maisons de disques dans lesquelles il intervient.
Le Michael Cimino de la pop.
Ouais, comme il dit lui-même, c'est quelqu'un qu'on aime bien inviter au restaurant parce que ça fait toujours classe, mais produire son album, non merci. Alors le prochain album, quand même produit par 480, s'appellera The Drift et il sortira en mai.
Eh ben écoute, je jetterai une oreille également. Enfin, je suis content quand même de t'avoir eu sur ce coup.
Ah ouais, non, la grande classe. Bon, bah tant pis, obligé de mettre la barre plus.
C'est vraiment une histoire d'opportunité, très très drôle.
Hein. Ouais, enfin bravo quand même, et puis rendez-vous à la semaine prochaine.
Oui, et puis on va la faire cette émission après tout qui nous est née pendant celle-ci. On va poursuivre, on fait donc les disques des amis de nos parents.
Ouais, et après, ce sera les disques de nos potes de lycée.
Après, ça sera les disques des types qu'on croise dans la rue. Vos propres disques, venez.
Allez, au revoir et à la semaine prochaine.
Moi, je serai là.